Une autre chose qui est encouragée au travers, pas juste cette étude-ci, mais à l'Église, dans le fond, on veut encourager tout le monde de pouvoir se verser dans les Écritures, dans la parole, parce que Dieu veut se révéler à nous. Et la raison pourquoi on veut toujours aller à la source, c'est pour bien comprendre le comment, le pourquoi, si possible. Alors, si les Écritures ne donnent pas toutes les réponses, ce n'est pas si grave, honnêtement. Ce qui est important, c'est qu'on veut marcher selon les Écritures, on veut marcher dans la vérité, et on veut s'accaparer des trésors que la parole enseigne, et puis l'adorer Dieu à sa juste valeur. Demain dépend de la volonté de Dieu, pas de la note. Hein? Qui peut prendre soin du lendemain? Et sa souveraineté s'opère sur l'ensemble de nos décisions. Notre volonté, comme il s'était mentionné la semaine dernière, est comprise dans la providence de Dieu. Donc, c'est pas possible pour nous de nous sauver nous-mêmes. C'est impossible pour nous. C'est seulement possible à Dieu. J'étais à une conférence hier, une conférence qui s'appelle AVAD. Donc, c'est une association pour les hommes d'affaires chrétiens. Et puis, la dernière personne qui a pris la parole a fait mention c'est impossible, beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Et comment moi je me suis pris cette phrase-là, c'est que le sujet de l'impossibilité, tout ce qui est impossible, c'est la business de Dieu, c'est l'affaire de Dieu, ça y appartient, c'est son projet, c'est son travail, et il prend plaisir à se glorifier en faisant des choses impossibles. Donc, pour commencer, pour introduire, on est rendu, comme j'ai dans le livre, à la section 7. Ça couvre quatre chapitres, chapitres 34 à 37. C'est le neuvième cours déjà, donc on avance dans ce cours-ci. Et puis, c'est un sujet difficile qui était abordé. Peut-être que tous les autres profs ont dit la même chose, donc je le dis pour moi-même. On parle de la conversion. Et puis, comment j'ai résumé cela? C'est en trois petites lignes, donc vous allez voir ici à l'écran. Vous avez des notes aussi. Essayez de suivre, mais vous allez voir, des fois, je me promène un peu. La providence de Dieu est suffisamment étendue pour contrôler notre conversion. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir qu'il y a plusieurs versets qui s'entrecoupent. Donc, des fois, vous allez avoir l'impression que je me répète. En fait, je prends beaucoup de ce que John Piper, l'auteur, prend pour essayer d'aller chercher des subtilités. Et des fois, ce n'est pas si facile que ça de rendre un 60 pages en 12 pages, en 50 minutes de toute subtilité-là. Donc, s'il vous plaît, faites grâce. Et si vous avez l'impression que ça se répète, mais soyez pas irrités, dire, ben regarde, le Seigneur, il nous donne ces subtilités-là, pas pour rien. J'aimerais commencer par un mot de prière, puis après ça, on va embarquer dans le vif de notre sujet. Merci, Seigneur, pour cette opportunité-là qu'on a de pouvoir s'arrêter et de pouvoir étudier cette doctrine-là de la providence, de ta providence, et plus particulièrement ce matin, le sujet de ta providence dans notre conversion. Oui, Seigneur, lorsque Yannick a parlé en cet été de cette idée-là que chaque ancien allait enseigner à l'Église. J'étais vraiment très content, très excité, très heureux, Seigneur, de ce beau projet-là, Seigneur. Je pense que c'était une bonne manière de prendre soin de l'Église, de l'enseigner. Et je te prie, mon Dieu, d'être avec nous ce matin, que tu puisses ouvrir nos cœurs, premièrement, et aussi notre intelligence pour qu'on puisse t'écouter, t'entendre. Et Seigneur, sois avec ma diction, mes paroles, mes choix de mots, Seigneur, pour que ce soit le plus clair possible et que, à la fin de tout cela, tu puisses encore une fois te glorifier. En ton nom, Jésus. Amen. J'ai défini la conversion, juste pour être certain qu'on parle tous de la même chose, que c'est le moment où l'Esprit de Dieu vient en moi et vient influencer directement ma volonté pour mon bien. Donc, à chaque fois que je vais parler de conversion, je vais faire référence à ça. Donc, rappelez-vous ça. Dans le premier chapitre que j'ai lu pour vous, ça commence par dire, mais c'était quoi notre condition à nous, comme être humain, avant notre conversion? Et quelque chose de clair, c'est que lorsqu'on n'était pas sauvé, lorsqu'on était non-croyant, on était sous la puissance des ténèbres. Et puis, on était aussi spirituellement morts. On était esclaves du péché et on faisait des œuvres mauvaises. Notre intelligence était obscurcie. Et puis, on affectionnait, on aimait notre chair, ce qui nous rendait ennemis de Dieu. On était sans amitié, inimitié, et on était contre Dieu. Et à cause de cela, de cette condition-là, il y avait la colère de Dieu contre le péché. Et cette colère-là, qu'on méritait, a été versée sur quelqu'un d'autre. Une chance, parce que je pense que personne ne veut subir la colère de Dieu. Christ a été puni à notre place, et ce sont nos souffrances qu'il a portées. On voit une prophétie dans Ésaïe 53 qui parle 600 ans à peu près avant la venue de Christ. Ça dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, Dieu devait, jusqu'à un certain point, avoir une sainte colère, se mettre en colère contre tout le péché. Il y a une conséquence au péché, là. Donc, ce n'est pas juste la colère de Dieu, mais c'est la séparation d'avec Dieu. Et Dieu nous a délivrés de cela en envoyant Christ. L'auteur, John Piper, il fait référence à ce passage-là, prophétique d'Ésaïe, dans la page 505, il dit « C'est l'œuvre décisive de la providence salvatrice, l'annulation de la colère de Dieu pour tous ceux qui sont en Christ par la foi. Il existe à présent un moyen d'échapper à la colère omnipotente et horrifiante de Dieu, un seul moyen pour tous les peuples de la terre, une conversion qui entraîne en nous un changement et la confiance en Christ. » On peut voir dans Romains qu'on était sauvés par lui de la colère. Et dans Jean 3, c'est dit, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, il faut croire en Christ pour ne pas avoir la colère de Dieu. Une autre condition avant la conversion, c'est que c'était impossible d'aimer ce qu'on n'aimait pas. Donc, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, on a beau essayer par tous nos moyens, par toutes nos œuvres, nos actions, si on n'a pas la foi, on ne peut pas l'aimer. Et Jésus dit dans Matthieu 19, « C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Un autre élément de la condition, à cause qu'on est pécheur, à cause de la colère, à cause qu'on n'est pas capable d'aimer, à ce moment-là, bien, on a un besoin vraiment spécifique et particulier, c'est-à-dire le besoin d'être sauvé. Et la providence de Dieu sauve parfaitement, puis elle détermine notre conversion. Donc, ce n'est pas à l'être humain de s'auto-déterminer ou de décider lui-même de croire. On n'est quand même pas passif dans ce cheminement-là vers la conversion. Mais qu'est-ce qui s'est passé à notre conversion? Lorsqu'on se questionne, comment ça s'est produit, notre conversion? Et puis, c'est important de ne pas se fier nécessairement à nos souvenirs, parce que nos souvenirs, c'est plutôt des détails. Exemple, je me souviens que j'étais dans un camp chrétien, j'avais 18 ans, c'était le 20 août 94. C'est vraiment spécifique. Il était environ 22-23 heures le soir. J'étais pas loin du feu de camp. Et puis, j'ai donné ma vie à Dieu. Donc ça, c'est le contexte, les souvenirs que je me souviens de ma conversion. Je parlais à ma femme hier. J'ai dit, « Puis toi, c'était comment? » Ça fait bientôt 20 ans qu'on est sauvés. Elle dit, « T'en souviens pas. » Je dis, « Hop, je m'excuse, j'ai pas de mémoire. » Je parlais avec mon frère hier, puis il dit, « C'est un trait familial de la mémoire. Maman, excuse-moi, des fois, on doit répéter, hein? C'est ça, c'est vrai. Hein? On doit écrire, prendre des notes, parce qu'on se souvient pas. » Ma femme souvent me dit, « Je t'ai dit ça. » Ah, je m'en souviens plus. Je sais pas, ça arrive peut-être juste aux hommes, ou c'est ça. Donc, j'ai demandé à ma femme, « Comment tu étais sauvée? » Je savais que c'était à l'enfance. Je savais qu'elle avait prié une cinquantaine de fois pour demander pardon à Dieu. Puis à chaque fois, elle renouvelait. Je connaissais son histoire avec le chocolat. Encore aujourd'hui, elle aime beaucoup le chocolat. Mais lorsqu'elle avait 9 ans, avant d'aller dans un cours de flûte traversière, elle avait volé du chocolat dans l'épicerie ou la pharmacie parce que le paquet était ouvert. Puis là, elle l'a mangé. Puis là, tout d'un coup, elle s'est vraiment sentie coupable. Puis elle a demandé pardon à Dieu d'une manière spécifique, claire. Et c'était la dernière fois où elle a demandé à Dieu d'être sauvée. À ce moment-là, vers l'âge de 9 ans, elle a su qu'elle était sauvée. Mais elle ne savait pas quel jour exact. Mais ça, c'est le contexte et le souvenir qui entoure la conversion. On a chacun cette histoire-là de Dieu dans notre vie. Mais ça, c'est des détails, honnêtement. Parce que ce qu'il faut se rappeler, ce n'est pas par ces événements-là, par ces détails-là, par nos œuvres qu'on est sauvés, mais c'est vraiment par l'implication de Christ, l'implication de Dieu. C'est ça qui est le plus important dans notre vie. C'est ça qui crée le miracle. Et Dieu est absolument impliqué à chaque moment de conversion de chacun d'entre nous, de tous les êtres humains qui décident de croire en lui. Et ces résurrections-là sont exceptionnelles et Dieu est impliqué dans toutes celles-là. Et c'est là le miracle, c'est là qu'il faut mettre l'emphase. Maintenant, chapitre suivant, c'était la manière dont Dieu conduit notre foi. Donc, l'auteur dit, à la page 510, Dieu, puis je fais référence aux pages en français, hein. En anglais, ce n'était pas les mêmes pages, donc j'ai dû réajuster un peu. Donc, fiez-vous à votre livre en français, c'est dans vos notes pour les pages. Dieu seul connaît la nature et l'étendue du mal dont nous souffrons, c'est-à-dire du péché. Cette nature-là, on ne la réalise pas tant que ça. Et lui seul sait de quelle manière sa providence nous conduit à la foi. Des fois, c'est un peu flou, c'est pas clair, c'est comment on y est arrivé, mais lui seul sait exactement comment sa providence nous a amenés là. Et il nous en dit suffisamment sur cette œuvre glorieuse pour mettre un frein sur notre arrogance, sur notre orgueil, et pour ensuite exalter sa grâce, pour nous donner de l'espoir, de l'espérance, et pour dynamiser, pour nous motiver à obéir et à persévérer jusqu'à la fin. On voit dans Éphésiens que ça dit « Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés. » Donc, la Bible dit « On était morts, nos péchés nous rendaient morts spirituellement. » Et lorsqu'on considère notre corps, notre cerveau, c'est des organismes hyper complexes. C'est la science n'a pas terminé, n'a pas fini de découvrir des choses incroyables sur le corps, sur le cerveau. Puis j'écoutais la radio, je ne sais pas si je radote, là, mais j'écoutais la radio cette année, puis à un certain moment, ça parlait des connexions entre chacune des neurones dans le cerveau. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils ont dit, il y a tellement de connexions qui se font dans le cerveau, ils ont essayé de calculer ça, et puis ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait plus de connexions dans notre cerveau qu'il y avait du nombre d'étoiles répertoriées qu'ils ont découvertes dans l'univers jusqu'à présent. C'est assez incroyable. On ne peut pas imaginer la grandeur de l'univers. Déjà, on pense qu'on a vu, puis on découvre toujours encore plus loin, plus loin, plus large. Quand on met des télescopes vers le pôle Nord, on découvre des nouvelles sections qu'on n'a jamais vues encore. On est loin d'avoir découvert l'univers. Et notre cerveau est encore plus complexe même que l'univers. C'est assez incroyable. Et avec cette complexité-là, bien, Dieu nous a créés à son image. Ça nous permet de créer. Ça nous permet de découvrir, d'inventer des choses merveilleuses. Mais quelque chose que notre corps, notre cerveau n'est pas capable de faire, c'est de se soumettre parfaitement à Dieu et à sa parole, parce qu'ils sont morts spirituellement. La chair ne sert à rien, dit Jean 6. Et Jean 3 dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, on parle de la puissance de Dieu pour avoir la foi. Donc, Jean 14 dit, « Jésus prie le Père qui nous donne un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. » C'est l'Esprit de vérité, hein? L'Esprit puissant. Et John Piper dit à la page 512, « L'Esprit est libre de donner la vie à qui il veut. Il n'est pas sous notre contrôle. Comment pourrions-nous l'obliger à agir alors que nous sommes morts? Comment quelqu'un qui est mort peut avoir un pouvoir, hein? Ça fait pas de sens. Jésus nous demande d'être juste, même si c'est impossible à cause de nos péchés. Et cette demande-là, en fait, c'est un ordre. Il nous ordonne d'être sauvés. Et il a le droit de demander ça. Sauf que pour y arriver, il faut absolument que Dieu intervienne. Ça faut absolument un miracle. Et ça me fait référence à Lazare. Hein? Lazare est sorti du tombeau. Jésus a ordonné à Lazare. Jésus a ordonné à un mort de devenir vivant. Et j'ai dit, je vais vous faire peur. Là. Je me suis dit, je vais mettre ça en scénario. Là. Jésus a crié, Lazare, sors! Des fois, je fais ça. J'ai fait ça à la jeunesse vendredi soir. Là, et puis, la petite Rebecca qui était là avec nous autres la première fois, j'ai parlé fort. Puis là, ma fille a dit, elle a fait le saut. Fait que, elle apprend à me connaître et tout ça. Mais imaginez, un peu comme quand Jésus était sur la mer. Et puis, il a dit à la tempête de se calmer. C'est quoi la réaction qu'on aurait eue? Hein? Les disciples, ils ont dit, oh! Ils ont été impressionnés, mais aussi dans la crainte, ils disent, qui est cette personne-là qui même obéisse, le vent obéisse, la nature? Qui est cette personne-là à qui même obéit la mort et qui rend la vie? C'est Jésus. C'est toute une puissance. Cette parole-là, Jésus incarné, a le pouvoir nécessaire pour redonner la vie aux morts. Et on peut voir dans Romains 1, ça dit, « L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Hein, » on connaît ce verset-là. Et dans Corinthiens 1, 24, ça dit, « C'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Donc, il y a deux sortes d'appels. Je vais aller quand même rapidement dans ce point-là. Lorsqu'on lit dans Romains 8, on dit premièrement que... voyons, c'est comme ça ici. Ceux qui sont appelés au dessein de Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Mais, attendez, c'est pas ça que je veux dire. Je vais le reformuler, excusez-moi. Il y a deux sortes d'appels. Il y a premièrement l'appel de l'Évangile. La bonne nouvelle, on la prêche, on la dit, on la verbalise, on la vit dans nos actions. Et c'est pas tout le monde qui entend cet appel-là qui va y répondre. En fait, la majorité rejette cet appel-là. Mais il y a un autre appel, qui est l'appel puissant de Dieu. Et elle, on la voit dans Romains 8, il dit, « Dieu a connu d'avance, a prédestiné, il les a aussi appelés, et c'est souligné dans vos notes, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a rendus justes, et il les a aussi glorifiés. » Pour que pour nous soyons glorifieux, puis ça ne dit pas glorifieux, hein? Comment on dirait ça? Glorieux. Ça, c'est Josué, ça encore? Non, un autre. Josué me reprend souvent dans la jeunesse, là, c'est un vite. Donc, on soit glorieux, pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alors, maintenant, cette foi-là produit plein de choses nouvelles. Une chose nouvelle qu'elle crée, c'est la nouvelle naissance qui sauve. Jésus dit dans 1 Jean, bien c'est Jean fait qu'il dit, et c'est Jésus la parole de Dieu qui dit, « Quiconque croit maintenant, 1 Jean 5:1, qui croit maintenant Jésus, est né depuis l'éternité jusqu'à maintenant de Dieu. » On peut traduire ce mot-là « est né » comme un temps présent, mais un temps qui existe depuis toujours. Donc, quiconque croit est né. Et John Piper dit à page 516, « C'est la nouvelle naissance qui entraîne la foi et non le contraire. » Donc, attention dans l'ordre, là. On va essayer de ne pas se mêler. Les bébés à naître ne choisissent pas de naître. C'est un don, c'est un cadeau. De même, il est impossible à ceux qui sont morts d'avoir la foi afin de vivre. C'est la vie qui produit le don de la foi. Hein? Ce n'est pas l'inverse. Donc, puisqu'on a été sauvés, on a été nés de nouveau, on est né de nouveau, depuis tous les temps, c'est difficile à comprendre, hein? Alors, nous avons la foi. J'aime dire ça, je vais le dire tantôt aussi plus tard. Il y a souvent des doubles vérités dans la Bible. Puis on se demande, mais lequel qui est vrai? Puis ma réponse que j'aime donner à ces doubles vérités-là, je dis les trois. Ça ne marche pas, tu n'étais pas en mathématiques, toi, en comptabilité. La première vérité est vraie. La deuxième vérité est vraie. Et même si on n'est pas capable de comprendre comment les deux se rejoignent, les deux ensemble sont vrais aussi. Une troisième vérité. Dans Jean 1, dans l'endroit où on parle que Jésus est la parole, Jésus est incarné, a été fait chair, les versets 12 et 13, ça dit, « À tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. » Et en recevant et en croyant en Christ, Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Petit cours de francisation ce matin. Hein? Pour le verbe être, nous sommes enfants de Dieu, à tous ceux qui croient. Et on est membre de sa famille, on est membre de son peuple, on est membre de l'Église pour toujours. Naître de nouveau, ce n'est pas nécessairement connecté à notre action de croire, mais à l'action divine de nous, de nous acquérir, d'être acquis de Dieu par sa volonté. Et j'ai fait exprès d'ignorer la section là, dans Jean 1, la première partie du verset 13. C'est pas par le sang, c'est pas par la volonté de la chair, et ni par la volonté de Dieu. Par la volonté de l'homme. Quand même que je me pratiquais, je faisais la même erreur. Donc, pardonne-moi Seigneur, c'est par ta volonté, pas la mienne. Donc, ce n'est pas par notre chair, par notre héritage, par qui nous sommes, ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas non plus par notre sang que nous sommes sauvés. C'est seulement par Dieu, par sa volonté. Et c'est l'acte de Dieu qui nous engendre et non la foi de l'homme qui nous engendre. Et ça me fait penser à un chant. J'avais plusieurs chants qui me venaient en tête quand je préparais ça, mais celui-là, j'ai dit, je vais le citer, je l'ai mis dans vos notes. Ça dit « Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Avec moi? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Dieu nous a choisis avant notre naissance et puis a fait de nous sa famille. Ça m'émeut. Merci d'avoir chanté avec moi. On était régénérés et par sa parole vivante et permanente, elle demeure maintenant éternellement en nous. Une autre nouvelle chose qui arrive lorsque on a la foi, c'est qu'on est de nouveau. Donc, ça dit dans Éphésiens 1, « Il nous a engendrés selon sa volonté. » Et à la fin du verset 13, « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, un sceau qui ne se brise pas. Ce sceau-là aussi, on appelle ça une alliance. C'est sans fin, ça n'arrête pas. Et c'est impossible de briser ce sceau-là. Et c'est l'Esprit-Saint qui a rendu ça possible. Dans Romains 10, verset 14, ça dit « Le salut, ce n'est pas seulement par l'Esprit, mais aussi par l'Évangile des prêchés. » Je l'ai dit tantôt ça, et l'Évangile qui était écouté et cru. Comment invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, j'aime vraiment ce bout de verset, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Et verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » L'écoute de l'Évangile est essentielle, mais son écoute seulement, comme je l'ai dit, le premier appel, est insuffisant. Ça prend absolument, ce deuxième appel-là, l'œuvre de l'Esprit qui doit donner la vie, la nouvelle naissance, pour que sa parole soit entendue, pour que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent, et que Christ soit compris comme vrai, comme glorieux. Troisième et dernière nouvelle chose avec la foi, c'est qu'on est une nouvelle création. Dans Genèse 1, Dieu déclare « Que la lumière soit ». Je fais attention de ne pas crier, hein, c'est tentant pour moi. Et si quelqu'un est en Christ, de 2 Corinthiens 5, 17, est une nouvelle créature. Et dans Éphésiens 4, verset 24, pardon, « Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. » C'est toutes des expressions bibliques qui nous parlent que nous sommes une nouvelle création. Dieu crée au moyen de sa providence la lumière de Christ dans notre cœur afin que sa beauté brille en nous et que cette beauté-là, cette lumière-là en nous, nous conduise à la foi en lui. Donc, on dépend totalement de sa providence pour parvenir à la foi. Et John Piper dit à la page 522, « La providence de Dieu conduit son peuple à la foi en Christ en faisant pour lui ce qu'il ne peut faire de lui-même. Nous ne pouvons provoquer ni notre propre naissance, ni notre propre résurrection, tout comme nous ne pouvons pas causer notre propre création. Ce sont des miracles qui doivent être accomplis en nous et pour nous. » Maintenant, le troisième chapitre qu'on avait à couvrir, on parle de la foi qui sauve. Donc, j'ai parlé de la foi tantôt, on parle de la foi puissante et de ce qu'elle crée, les nouvelles choses qu'elle crée. Maintenant, on va parler de ce que la foi qui sauve. Et ça dit, dans la première section de ce chapitre-là, Dieu veille à ce que son peuple soit conduit à la foi salvatrice en Christ. Et vous savez, cette providence-là, je l'ai dit, je le répète, c'est un cadeau. Et c'est Dieu qui nous dirige vers ce salut-là, vers la foi. Et de quelle manière? De trois manières. En provoquant une nouvelle naissance, comme j'ai dit tantôt, mais aussi en nous appelant à sortir des ténèbres et en nous conduisant dans son admirable lumière, puisque nous sommes une race élue. Hein, on a parlé de nouvelle création, de nouvelle lumière. Et enfin, en faisant luire cette lumière-là dans le cœur de son peuple. 2 Corinthiens 4, 6, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La foi est un cadeau, et Dieu nous conduit vers la foi. Et maintenant, avec la foi, vient simultanément la repentance. Et les deux sont des cadeaux. Jean-Baptiste dit il a baptisé, dans le fond, on sait que Jean-Baptiste a baptisé du baptême de la repentance. Et il dit au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Donc, ça commençait par la repentance, et ensuite il a dit de croire. Et ensuite, ça dit dans Matthieu 3, 8, de se réjouir de notre repentance. En fait, c'est peut-être ça. Paul se réjouit parce qu'on est triste. C'est bizarre, hein? Joie, tristesse. Pourquoi il se réjouit de notre tristesse? Parce que notre tristesse, c'est causé par notre désolation d'avoir péché. Et cette tristesse-là nous mène à la repentance. Et Jésus dit dans Matthieu 3, 8 à ce moment-là, « Produis donc le fruit digne de la repentance. » Donc, Jésus veut qu'on produise des fruits qui sont dignes de cela. La foi et la repentance viennent de Dieu. Ce n'est pas choisi ou déterminé par nous-mêmes. On n'auto-détermine pas qu'on va se repentir. Il y a un passage que je vais lire. C'est un passage clé que j'ai trouvé là, dans cette étude-là sur la conversion. Et je vais le répéter là, des bouts de versets encore deux autres fois après jusqu'à la fin. C'est dans Éphésiens 2, versets 4 à 10. Je l'ai même mis là, un peu plus clair, là, ce passage-là, en retrait dans vos notes. « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Tellement de richesses dans ces sept versets-là. Et nous étions morts, Jésus nous a rendus vivants, et on l'a dit, les morts ne peuvent pas se sauver lui-même. Ah, merci, je sais, je me répète, là, vous m'écoutez. Mon but, ce n'est pas juste de répéter les mêmes choses, mais essayer de prouver les points ici, que la repentance est un don aussi. Dieu nous sauve, et en nous ressuscitant des morts, ça nous apporte la foi. Donc, les morts ne peuvent pas être à l'origine de la foi. Et John Piper dit à page 527, nous avons été, trois points, nous avons été ressuscités avec Christ et fait asseoir, on était fait asseoir, dans le fond, Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes alors que nous étions morts. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, de sorte que tout le procédé, y compris le réveil de la foi, ne vient pas de nous, mais est un don de Dieu. Et enfin, nous sommes l'ouvrage de Dieu dans le sens qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Cette foi, cette repentance-là sont des cadeaux et on peut avoir l'espoir, espérer que la repentance va venir à nous. Dans 2 Timothée 2, 24 à 26, Ça parle, c'est Paul qui dit à son serviteur Timothée, il dit, tu dois redresser avec douceur les adversaires. Pourquoi? Dans quel but? Dans quel espoir? Hein? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, Paul enseigne son disciple d'avoir l'espoir que Dieu va amener la repentance, parce que c'est Dieu qui l'amène, et que cette repentance-là va nous faire comprendre la vérité. Et ça, on va le faire avec douceur. Maintenant, j'ai quelques questions qui terminent un peu le cours. Je n'ai pas fini du tout, là, en passant, mais pour la dernière partie, et je vais essayer d'y répondre. C'était émis dans le livre. Premièrement, est-ce que Dieu désire que tous soient sauvés? On lit dans 1 Timothée 2:4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent ou arrivent à la connaissance de la vérité. Et on lit dans le livre à page 532, Dieu peut désirer des choses à un degré et choisir à un autre degré de ne pas agir selon ses désirs à lui. À un degré, il désire que tous soient sauvés, et à un autre, il donne à certains la repentance et le salut. 1 plus 1 égale 3. Hein? Ces deux choses sont des vérités. Je l'ai dit tantôt. Ces deux choses-là sont des vérités, et ensemble, elles sont une vérité aussi, même si on n'est pas tout à fait capable de les comprendre. Donc, les deux sont vraies, et la troisième ensemble est vraie. On lit dans l'Ancien Testament, j'ai deux sections de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, il y a deux passages qui dit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais il dit, ou plutôt, convertissez-vous et vivez. Et ça dit un peu plus loin, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite, qu'ils vivent. Même il fait un appel, il dit, revenez, revenez. Pourquoi mourriez-vous? Donc, Dieu, on voit dans ses amants, il dit la même chose. Il ne veut pas que les gens meurent. Mais dans Deutéronome, Dieu dit quelque chose d'autre, qui semble être contradictoire. Deutéronome 28, 63, ça dit, « L'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. » Et souvent, on va interpréter ça comme mesquin. « J'ai ma vengeance. » Et puis, ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut interpréter le plaisir de Dieu. C'est que Dieu est parfaitement juste, il exerce parfaitement son jugement, et dans sa perfection à lui, on l'a dit tantôt, le péché le met en colère. Il ne peut pas tolérer le péché. Et à cause de ça, il y a une conséquence à ce péché-là, et la mort est nécessaire. Ce qui est le plus important, c'est qu'il a déversé cette colère-là, cette mort-là, pas sur nous, mais sur Jésus. Si on croit en lui, on n'aura pas cette colère-là. On n'aura pas cette pérision, périr. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider, là. On ne périra pas. Tiens. Donc, Dieu exerce parfaitement son jugement. Puis, il y a plusieurs versets qui parlent de la perfection de Dieu dans son jugement. Mais Romains 11 le dit un peu plus spécifiquement, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Donc, souvent, on essaie de réconcilier Dieu est amour et Dieu est juge. Et ce n'est pas toujours évident de réussir à comprendre parfaitement la profondeur, la grandeur de son amour et la profondeur, la grandeur de son jugement. Et même Paul le déclare à l'Église de Rome, ses jugements sont impossibles à sonder. Ils sont tellement, tellement grands, tellement complexes, tellement mystérieux que c'est incompréhensible. Et personne ne connaît les pensées de Dieu. Page 533 du livre, ça résume, ça répond à cette question-là. Ces passages-là dans l'Ancien Testament dévoilent que Dieu aime le monde d'une compassion authentique et qu'il désire son salut. Et cela n'est pas contradictoire ou n'invalide pas ce que nous observons dans le chapitre qui est écrit, c'est-à-dire que la foi salvatrice est un don de la grâce et que Dieu a décidé, avant la fondation du monde, quel traître serait épargné. Ce mot-là, traître, me fait frissonner un peu. Nous sommes tous traîtres. Nous sommes tous désobéissants. Nous sommes tous inimitiés, on l'a dit tantôt, de Dieu, ennemis de Dieu. Et Dieu décide, comme il veut, de choisir certains traîtres pour croire en lui. Ensuite, une autre question. Mais est-ce que tous pourraient être sauvés? Tous peuvent être sauvés. On lit à page 533 encore, « Si on fait dire à la Bible, si Dieu désire que tous soient sauvés, alors il peut refuser à personne le don de la repentance. » Mais, ça c'est un faux raisonnement. C'est mal interpréter la Bible. C'est une supposition qui n'est pas enseignée nulle part dans la Bible. Ce n'est pas parce que ces deux vérités-là semblent se contredire que si on les additionne ensemble, ça donne une nouvelle vérité. Non, non, il faut faire attention. Ça, c'est des dangers, des mensonges que souvent même l'ennemi, dès le Jardin d'Éden, essaie d'insérer dans notre tête et qui sont fausses. Ce n'est pas validé bibliquement. On ne peut pas croire que Dieu ne peut pas refuser le don de repentance. Et je vais parler vite d'une position face à la volonté humaine, la volonté de Dieu. Je ne pense pas qu'Yannick l'a traité la semaine dernière. C'est le point de vue arménien de la grâce. Eux croient que la grâce est prévenante, c'est-à-dire qu'elle précède la foi qui sauve. L'œuvre de cette grâce-là divine dans le cœur humain n'a pas d'impact sur la volonté de l'homme, mais il y a un impact limité sur son action à notre conversion. Cette grâce-là, elle n'est donc pas irrésistible. Dans les attributs de Dieu, Dieu est irrésistible. Et là, eux semblent dire que non, cette grâce-là n'est pas irrésistible. Donc, nous avons le choix d'être sauvés. Et cette grâce-là de Dieu, toujours selon les Arméniens, elle s'arrête en attendant que nous faisions notre propre choix, qui finalement va ou peut déterminer si on va être sauvés. Eux disent, c'est nous qui décidons, et ultimement, c'est nous qui auto-déterminons si on va croire ou non, si on va se convertir ou non, si on va être sauvé ou non. Vous comprenez quand même dans le ton que je prends, que je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. Et l'auteur, John Piper, non plus. Et il écrit, pour répondre à cette question, à page 537, « La démonstration que je souhaite faire au regard des Écritures est que lors de notre conversion, Dieu fait plus que nous donner la capacité d'utiliser notre volonté pour croire ou non. Je soutiens plutôt que Dieu vainc toute notre résistance, ouvre les yeux de notre cœur et nous rend comme Christ et le rend réel, si beau, si irrésistible que notre volonté l'accueille avec joie, comme Sauveur, comme Seigneur et comme le bien le plus précieux. » Et il y a un passage qui nous aide à croire que la grâce est irrésistible. C'est dans Éphésiens 2, versets 4 à 6. Ça dit, puis il y a quatre verbes que je veux reprendre ensuite. Ça dit au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et j'en ai oublié un, il nous a sauvés. » Donc, on se pose la question suivante pour chacun des verbes. C'est qui est responsable ou qui initie l'action de ces verbes-là? C'est qui rend vivant? C'est pas possible pour un mort d'être vivant, je l'ai dit. Et on ne peut pas se ressusciter à moitié, dire « Bien, la grâce me fait rendre compte que je peux être ressuscité, mais moi, je vais décider de me ressusciter complètement et non partiellement. » Ensuite, qui sauve? Le fait que Dieu nous a sauvés, ça sous-entend pas qu'on est suffisamment libre de pécher pour choisir de vivre ou non. Mais je vais décider si je vais exercer le péché ou non. Je vais me retenir de pécher, comme ça je vais avoir le salut. Donc, on n'a pas cette force-là, cette capacité-là. Qui a ressuscité? Christ est ressuscité. Il nous unit spécifiquement dans sa résurrection. Jésus ne peut plus jamais mourir. Parce qu'on voit dans Romains 6:9, ça dit « Christ est ressuscité des morts et ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir pour lui. » Et dans notre unité avec Christ, nous avons ce même héritage-là, c'est-à-dire que nous, si on est ressuscité, on ne peut plus mourir non plus. Et le quatrième verbe, qui nous fait asseoir. Si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous n'avons pas ensuite la liberté de choisir, de dire, « Ah, bien, finalement, je vais pas goûter à sa grâce. » Lorsqu'on a une place avec Dieu, on l'a éternellement avec lui au ciel. Et il faut faire attention, hein? Vous vous souvenez, les deux frères, les deux disciples qui disent, « Est-ce que c'est possible d'être assis à ta droite et à ta gauche? » C'est pas ce genre de place-là qu'on voit dans ce passage-là. C'est une place avec lui pour l'éternité, dans son royaume, dans sa nouvelle Jérusalem. Donc, pour répondre à la question, est-ce que tous peuvent être sauvés? On voit dans Corinthiens 12, 3, ça dit, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc, je l'ai souligné, je vais le répéter, je vais le dire dans le sens inverse. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est impossible de dire par nous-mêmes, « Jésus est Seigneur. » Jésus est Seigneur. Donc, lorsqu'on le déclare, c'est parce que l'Esprit Saint nous permet de le déclarer. Et là, j'ai des tonnes de cantiques qui disent « Jésus est Seigneur » dans ma tête. Dieu veut recevoir la gloire pour le cadeau de la providence divine qu'il nous donne, la repentance et la foi, et qui nous mène à la conversion. À Jésus soit la gloire pour sa bonne nouvelle, pour son Évangile. Il reste un dernier chapitre à voir. J'ai le temps encore. Je n'étais pas sûr que j'allais arrêter là ou non, mais ça avance bien. Quelles sont les origines, les racines de l'élection? Je crois que le sujet de l'élection a déjà été traité dans les cours précédents, mais là, on le lit à la conversion. Donc, l'élection a des implications avec notre nouvelle alliance. Donc, on lit dans Jérémie, qui s'est écrit, « Je ferai une alliance, et cette alliance-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans de eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus de leurs péchés. » Et Jésus a accompli cette promesse-là. Ça dit dans Luc 22, 20, et on le célèbre au moins une fois par mois, cette coupe-là est la nouvelle alliance en mon sang. Lorsque Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, et qui l'a donné cette nouvelle prescription-là, ce nouveau sacrement-là, si je peux dire, il dit que sa nouvelle alliance est accomplie par son sang, et son sang, à quoi qu'il servit, était répandu pour nous. Donc, Dieu accomplit l'ultime sacrifice de ne pas épargner son propre Fils et de tenir toutes ses promesses qui sont liées à la nouvelle alliance. Lorsque Dieu fait une promesse, c'est certain qu'il va la tenir. Maintenant, au niveau de l'élection, encore une fois, nous sommes prédestinés, nous sommes connus d'avance. Je l'ai mentionné plusieurs fois, je vais quand même juste mettre le point là avec ce sujet-là. Page 546, ça dit, « Le fait que Dieu connaisse d'avance son peuple, avant qu'il n'existe, avant qu'il n'ait la foi, indique qu'il distingue ses enfants et donc qu'il les a choisis. » Romains 8 dit, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. » Donc, c'est un mystère. Comment Dieu sait-il que je suis sauvé avant même de l'être? Comment suis-je déjà son enfant, même si je n'ai pas encore été converti? Ah, c'est bizarre à dire. Hein? Bien, c'est une double vérité, encore une fois. Le terme « choisir » qu'on lit dans la Bible peut aussi être interprété, se lire comme le terme « connaître ». Et l'expression qui peut bien expliquer « choisir et connaître », c'est d'être considéré comme une possession spéciale, une possession à Dieu. Dieu dit dans Genèse 18, par propos d'Abraham, « Je l'ai choisi ». Et c'est un temps de verbe aussi présent. Dieu a choisi Abraham, a choisi sa descendance, a choisi ceux qui auraient la même foi que lui pour être ses enfants de toute éternité. Maintenant, l'élection, c'est une réalité. Hein? Dans la Bible, on peut comprendre que l'élection, c'est le fait que Dieu a choisi ou élu d'avance. Avant la fondation du monde, ceux qui vont recevoir de lui le don de la foi qui sauve de la repentance. Et il y a une expression qu'on utilise même dans la vie de tous les jours, dans Matthieu 24, ça dit « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Souvent, on pense aux élections. Hein? Beaucoup se présentent pour être se faire élire pour être élu, et il y en a beaucoup, mais peu le sont réellement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois des listes de votes, là, il y a comme 32 noms. Et puis, maintenant, même si c'est lequel, puis là, il faut chercher parti pour qui on vote. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui désirent être élues, souvent, ou même au niveau municipal, il y en a plus encore, mais peu sont réellement élus. Et ça, c'est Christ qui l'a déclaré. Et l'élection, c'est quelque chose, c'est un mot, c'est une expression qui est utilisée tout au long, autant du Nouveau que de l'Ancien Testament, mais je vais spécifier, je vais mettre un peu plus d'emphase sur le Nouveau Testament maintenant. Jésus a dit « Moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Donc, « choisir » et « élire », c'est synonyme. Ensuite, ça dit à l'Église de Rome, Paul écrit « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Il écrit à l'Église de Corinthe « Dieu a choisi les choses folles de ce monde » pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Et à l'église d'Éphèse, il dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. » Et on voit Pierre-Jean-Jacques, ou Jacques-Pierre-Jean, dans l'île d'Orde qui est là, dans les derniers livres du Nouveau Testament, qui reprennent aussi l'expression « choisi et élu ». Maintenant, dans Actes 13, verset 48, on lit que les païens, en fait les non-juifs, se réjouissaient et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. L'auteur dit, à page 549, « Les païens ont cru parce qu'ils faisaient partie d'un groupe qui était destiné à croire. La providence de Dieu manifestée en ce qu'il veille à ce que son peuple croit, englobe aussi son choix de faire de ces personnes destinées à croire son peuple. » Donc, Dieu connaît son Église de toute éternité. Dans Jean 17, Jésus dit à son Père, « Les hommes que tu m'as donnés, ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Donc, nous appartenons à Christ, mais nous appartenions à Dieu. Et aussi dans Jean 8, il dit, nous appartenons au Père avant même d'avoir la foi. Ça dit, c'est celui qui est Dieu, celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, être de Dieu, être de la vérité, ça fait qu'on va écouter Dieu. Et on voit dans Jean 17, que Jésus prie pour tous ceux qui vont croire en lui. C'est tellement une belle prière que Jésus fait là. Et la question, c'est est-ce que ça signifie que tous vont lui appartenir? Non, c'est clair, on l'a vu. Mais à ce moment-là, pourquoi moi, j'appartiens à Dieu? C'est-tu parce que j'ai des qualités spéciales, exceptionnelles, ou parce que moi, j'étais peut-être plus disposé que mon voisin à croire que Dieu existe et à croire en lui? On le répète dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si c'est le Père qui l'a envoyé et m'attire. » Ce n'est aucunement à cause de mes qualités ou de ma prédisposition que je viens à Dieu. Mais Dieu le Père et son œuvre en moi, ça permet que je sois attiré à Christ, simplement par grâce. Une autre question, dans Jean 12, 32, Jésus dit, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Est-ce que ça veut dire que le Père attire tout le monde à Jésus? Non. Attention. Jésus ne dit pas « J'attirerai tout le monde », mais il dit « J'attirerai tous les hommes ». Et il faut sous-entendre, quand il parle de tous les hommes, et on est certain, on peut dire avec certitude que lorsqu'il parle de tous les hommes, il parle de ses brebis, il parle de ses enfants, il parle de son peuple. Sinon, il se contredirait. On voit dans Jean 10, 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendent ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus n'a pas le droit de se contredire. C'est impossible, il est parfait. On lit aussi dans Jean 6, 64, 65, « Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Il dit qu'il attire tous les hommes. Mais il déclare aussi qu'il y en a qui ne croient point. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point. Et là, il fait référence à Judas Iscariote, qui n'a pas été attiré au Père. L'auteur dit dans la page 553, « Dieu n'utilise pas sa perception pour constater si nous sommes disposés à venir à Jésus. C'est plutôt quelque chose qu'il accorde lui-même à certains individus, quelle que soit sa disposition humaine à venir à Christ. Elle n'est pas la base, mais la conséquence de l'appartenance première au Père. » Donc, phrase quand même un peu complexe. Dieu, c'est pas, il n'y a pas juste la puissance de percevoir, mais sa puissance est surtout révélée dans le fait que c'est lui qui choisit certains individus. Et à cause de son choix, il lui appartient. Et ça fait qu'on devient disposé à croire en lui par la suite, à cause qu'il nous a choisis, et non l'inverse. J'espère que j'ai été clair. J'essaie en tout cas. On arrive bientôt à la fin. Donc, ça dit dans 2 Timothée 1, verset 9, « Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre plan, son propre dessein, et selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus avant les temps éternels. » Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes sauvés. Dernier point, Jésus nous reçoit pour toujours et ne nous mettra jamais dehors. C'est garanti. Jean 6, 37 et 10, 14, 15, ça dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie à mes brebis. » Jésus est mort exclusivement pour son épouse, pour son Église, pour son peuple, pour ses brebis. Et on veut mettre notre espérance dans ce Dieu vivant-là, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement et surtout le sauveur de tous les croyants. Donc, on voit ça dans 1 Timothée 4, 10. Et Romains 8, ça dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » La réponse est claire, personne. Et Jean 17, ça dit « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Je ne les mettrai pas dehors, Jean 6, 37. » Et un verset qu'on utilise, ceux qui croyons à l'assurance du salut, et j'aime l'utiliser dans toutes sortes d'endroits au niveau du, souvent les entrevues de membres, même le cours de baptême, c'est dans Jean 10, 28, 29. Vous le connaissez certainement, c'est assez fameux. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père les a donnés, il est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il a le monde entier, il a ses enfants, il a tout son peuple dans sa main. En conclusion, nous étions son peuple avant même d'avoir cru. Et Éphésiens 1, encore, versets 4 et 6, je résume. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés, choisis d'avance, dans son amour, à être ses enfants, selon son bon plaisir, selon sa volonté. Et pourquoi? Pour faire quoi? Pour qu'il soit loué et qu'il soit glorifié à cause de sa grâce. Donc, je répète un résumé de la leçon de ce matin. La providence de Dieu est suffisamment étendue pour contrôler notre conversion. Merci pour votre écoute. Je vois que le temps est presque écoulé. Donc, je ne sais pas si habituellement on finit à 10 heures pile. Je sais qu'il y a eu des moments où on se comprenait des questions. J'ai essayé d'en mettre le plus possible dans le texte. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? J'ose poser ça. Ou qui voudraient venir me voir après, sentez-vous bien à l'aise. Je vais être avec les enfants, mais venez me voir dans la jungle, ça me fera plaisir de jaser avec vous. C'est bon? Bien, on va terminer par un mot de prière. Merci, Seigneur, pour toutes ces richesses qu'on trouve dans ta parole et cette intelligence-là, Seigneur, que tu as mis particulièrement, Seigneur, à cet auteur, à John Piper, qui a écrit ce livre exceptionnel sur ta providence et qui, Seigneur, a essayé de nous aider à bien comprendre tout ce que tu nous dis en détail sur comment tu nous as sauvés, comment la conversion arrive en nous. Et quelque chose de clair, c'est que c'est miraculeux. Et quelque chose de clair, c'est que tu veux être glorifié et tu veux qu'on croie en toi et qu'on te remercie pour ta grâce. C'est ce que je fais ce matin, c'est ce que nous faisons ce matin On veut te remercier pour ta grâce. Et ça, c'est en ton nom puissant, Jésus, que tu nous permets de parler au Père par ton Saint-Esprit. Amen.